Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, nous allons parler de François d'Assise, les 800 ans qu'on souligne cette année de son décès, de son départ vers le Seigneur. Et nous avons la joie, vraiment, je suis très heureuse que nous puissions recevoir Richard Chartier, qui est directeur de Mission des Franciscains. Richard, bienvenue à Question d'aujourd'hui.
Ben merci, Renaud, c'est gentil.
Bien, Richard, avant de parler de François, et on aura beaucoup de choses à dire sur lui, François d'Assise, d'abord, quel est votre rôle et votre motivation à être directeur de Mission des Franciscains?
Bon, alors, écoute, moi, j'ai été très près des franciscains depuis de nombreuses années. J'ai commencé, d'abord, je suis dans l'ordre des franciscains séculiers. Alors, évidemment, j'étais proche de la famille franciscaine et en particulier des franciscains. J'ai commencé par connaître un franciscain par Jeunesse du Monde. Je me suis donc rapproché de la communauté, puis tranquillement, pas vite, faire des animations auprès des jeunes. Ensuite, ils cherchaient quelqu'un pour le bureau des missions. Alors, on m'a engagé, puis je suis devenu directeur du bureau des missions en 2007. Et depuis ce temps-là, je fais ce rôle-là avec beaucoup de bonheur et de joie. D'ailleurs, on va en parler tantôt de la joie de François d'Assise. Je suis dans cette joie-là parce que j'aime beaucoup ce travail de solidarité avec nos frères et sœurs pauvres. Alors, pour moi, c'est vraiment fantastique d'être avec les franciscains.
La famille franciscaine, c'est une très grande famille. Pouvez-vous juste nous donner les grandes lignes de cette famille auquel vous appartenez vous-même?
Oui, alors comme je disais tantôt, il y a d'abord le premier ordre. Ce qu'on appelle le premier ordre, c'est les frères, les frères franciscains, les capucins. Il y a aussi les franciscains conventuels. Et là, il y a aussi les franciscains d'Emmanuel, ici au Québec. Et mais ensuite, il y a le deuxième ordre, donc les sœurs, les clarisses et toutes les communautés de sœurs, franciscaines missionnaires de Marie, franciscaines missionnaires de Michel-Conception, etc. Ensuite, le troisième ordre, qui est les franciscains séculiers. Et il faut dire que les franciscains séculiers, ça a été fondé par François d'Assise, parce que François a vu ses frères, un de ses frères qui disait « Bon, moi, je suis pas fait pour la vie religieuse, mais j'aimerais ça continuer dans la voie que tu as tracée, cher frère François. » Alors, François a dit « Bien, on va donc faire en sorte que les laïcs, les gens qui veulent suivre la voie, ma voie, la voie franciscaine, puissent continuer. » Alors, et c'est comme ça que ça a été fondé.
Ah, c'est merveilleux de savoir ça.
C'est un très vieil ordre.
Oui, mais c'est merveilleux de savoir que François d'Assise, parce qu'on a toujours l'image, bien sûr que c'est un saint, mais quelquefois on pense qu'il était prêtre, qu'il avait été ordonné, tout ça, ce qui est pas le cas, mais il a pensé aux laïcs, c'est quand même formidable.
Formidable.
Il y a plus de 800 ans.
Exactement.
Richard Chartier, donc on parle de François, les 800 ans du décès de François. C'est une année très particulière pour vous, mais avant qu'on parle de François lui-même, de ce qu'il a apporté, et on sait que c'est sans doute le saint le plus connu, non seulement chez les chrétiens, les catholiques, mais aussi chez les non-chrétiens. Hein, il est assez connu, sinon assez reconnu. J'aimerais qu'on parle un peu des grandes dates de l'histoire de François. Alors, il naît en 1181 ou 1182?
C'est ça, la date n'est pas tout à fait définie, mais comme le pape Jean-Paul II a écrit un texte qui est quand même assez intéressant, c'est en 1182 qu'on pense qu'il est né, parce qu'on a souligné son 800e, donc 800 ans plus tard.
Alors, 1182.
1182, on pense que c'est ça. Ça peut être 1181, 1182, mais moi, je me fie à ce que le pape Jean-Paul II, à l'époque, avait écrit un texte. Et puis, ce texte-là, effectivement, c'est donc déroulé en 1982, si je ne me trompe pas. Hein?
Et donc, il naît à Assise.
Oui, il naît à Assise. Alors, François naît donc en 1182 dans un milieu... Une famille riche, hein, parce que son père était un drapier, donc il vendait des draps et des tissus. Et à cette époque, c'était donc faisant partie de la bourgeoisie, c'était un commerçant, c'était quelqu'un qui faisait partie d'une famille riche. Mais on pourra voir un petit peu plus tard qu'est-ce que ça peut comporter, ça, parce que François est né dans un milieu particulier, mais aussi à une époque particulière. Alors, mais là, si on peut voir au niveau des dates, disons qu'au niveau des dates principales de François, là, qui vraiment marque son histoire, ben, on pourrait dire qu'en 1204, là, il est malade. Et au moment où il est malade, il vit des moments de conversion, si on peut dire, tranquillement, pas vite. D'ailleurs, il y a un livre intéressant que, si les gens veulent lire, sur François d'Assise et ses conversions du frère Pierre Brunet, c'est très intéressant, car ce livre-là, il démontre que François, tout au long de sa vie, il y aura des conversions. On sait bien que François, évidemment, à un moment donné, bon, il a fait une coupure par rapport à sa famille, par rapport à sa vie d'enfant riche, on pourrait dire.
Et de chevalier aussi.
Et de chevalier. Mais tout au long de sa vie, il va avoir des conversions, François. Et une de celles-là, c'est au tout début, quand il est fait prisonnier, parce qu'à l'époque, il y avait une guerre entre Assise et Pérouse, donc deux villes. Et c'est là qu'il commence à réfléchir sur sa vie spirituelle, etc. Et c'est là aussi qu'il embrasse un lépreux. Donc, pour lui, c'est commence déjà là une démarche intérieure qui fait que, bon, quand tu embrasses un lépreux, parce que là, lui, il a été vraiment touché par la pauvreté de cette personne, par sa maladie.
Un lépreux.
Parce qu'à l'époque, hein, les lépreux étaient mis en dehors des villes. On pouvait pas, les lépreux ne pouvaient pas franchir les portes de la ville. Alors, en étant à l'extérieur comme ça, bien, ça faisait des gens des marginaux. Et il était donc à part. Et le fait d'aller embrasser un lépreux, c'était une grande signification.
Enfin, il franchissait un interdit.
Oui, c'est ça.
C'était interdit exactement. De toucher aux lépreux. Et les lépreux ne pouvaient pas non plus toucher les gens, pas seulement être hors de la ville, mais pas avoir de contact vraiment. Et là, il franchit une frontière.
Oui, tout à fait. Alors, commence là, déjà, hein, une conversion. Bon, en 1205, François aussi va prier dans une petite chapelle à Saint-Damien. Et c'est le crucifix donc qu'on connaît des franciscains, c'est le crucifix médiéval là, avec le Christ qui est comme un peu en gloire, avec les yeux ouverts, et qui lui dit « Va, François, répare ma maison, parce que tu vois, elle tombe en ruine. » Et lui, François, pense que c'est des maisons, sa maison, c'est des pierres et tout ça, mais il va se rendre compte plus tard que ce que le Seigneur a voulu lui dire, c'était que c'est pas les pierres qu'il voulait qu'il répare, c'était la spiritualité, disons, l'intérieur de l'Église. Alors, ça aussi, commence encore là une réflexion. Hein,
et à ce moment-là, il est toujours, il n'a pas quitté sa famille à ce moment-là.
Non. Donc, là, il va quitter en 1206. Là, il renonce à ses richesses devant l'évêque. Il fait le dépouillement. Donc là, il se met complètement nu. Il se dépouille de tout ce qui est de sa richesse. Et là, il va vraiment on va dire, entre guillemets, se convertir vers une pauvreté, l'humilité. Donc, l'habit des franciscains qu'on connaît aujourd'hui provient de là. C'est qu'il a mis à ce moment-là une bure, une espèce de tissu tout à fait simple, tout à fait pauvre, tout à fait, de l'époque, là. Alors, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que François va commencer à faire sa démarche vers... à bâtir tranquillement, pas vite aussi, sa spiritualité, hein, parce que là, bientôt, il va fonder sa communauté, qui va être en 1209, parce que le pape François reconnaît à cette époque la règle de François. Il faut dire que là, il y a eu le chaud de vite, parce qu'il y a eu beaucoup de démarches. Mais disons que François, je pense que qu'est-ce qui l'a beaucoup touché en 1208, un petit peu avant, c'est quand il a écouté l'évangile de Saint Matthieu, où là, Jésus envoie ses frères en mission. Et là, il est vraiment touché. Il se dit, ah, c'est peut-être ça, dans le fond, ma vocation. C'est que Jésus envoie ses disciples en disant, ben, ne portez rien, là, soyez le plus simple possible. Donnez la paix à la maison où vous allez, etc. Et ça, ça l'a vraiment beaucoup touché. Et à partir de ce moment-là, c'est là que s'est déclenchée toute sa réflexion vers pour bâtir tranquillement, pas vite, sa communauté et d'avoir d'autres frères. En 1212, avec Claire d'Assise, il fonde l'Ordre des Clarisses. Et là commence aussi ce qu'on pourrait appeler sa mission, c'est mission adjuntes, on va dire. Aujourd'hui, on dit mission adjuntes. Donc, il s'en va rencontrer le sultan, si on pourrait en parler, en 1219, en Égypte. Ensuite, les premiers missionnaires des frères partent pour le Maroc en 1219. François va là aussi en Terre Sainte. Il est premier martyr franciscain en 1220. Il y a des frères qui vont être tués au Maroc. En 1223, c'est la création de la première crèche de Noël à Greccio. En 1224, il reçoit des stigmates de la crucifixion sur le mont Alverne. Puis en 1226, la mort de François. Alors, on peut dire que les grandes dates là, de sa vie, on peut dire, c'est à peu près ces dates-là.
Richard Chartier, un des thèmes que vous retenez chez François d'Assise, en fait, c'est plus qu'un thème, c'est une réalité. C'est la joie chez François. Or, François, dans sa famille, il avait tout. Il avait beaucoup de richesses, il était placé, il avait presque un avenir défini devant lui. Il vit différentes expériences qui vont l'amener à abandonner cette vie-là et à chercher, bon, vous l'avez bien exprimé, là, à répondre à l'appel de Dieu, du Seigneur qui lui a été lancé. Et à travers ça, il va vivre bon, des expériences difficiles aussi. Il va être même aveugle à la fin de sa vie. Et pourtant, la réalité de la joie chez François, c'est quelque chose que vous, vous retenez.
Mm-hmm. Oui, parce que je pense que dans l'époque où on vit actuellement, je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont un peu découragés hein, par le contexte dans lequel on vit, par toutes sortes de choses qui arrivent au niveau politique, économique, social. Et beaucoup de gens sont désespérés. Je sens beaucoup aussi d'anxiété, d'angoisse.
D'insécurité aussi.
D'insécurité, exactement. Mmh. Insécurité, hein, évidemment, économique. Mais François, je pense, en tout cas moi, ce qui me stimule dans ce qu'il nous a laissé comme héritage, c'est de dire, ben c'est par rapport à un moment de sa vie où il est avec le frère Léon, et à un moment donné, il lui dit, frère Léon, on est deux, là, tout à coup, parce qu'ils partent, eux autres, ils s'en vont évangéliser, il dit, bon, tu sais, on vit une joie parfaite. Bon, là, je résume un petit peu l'histoire, là, peut-être un peu plus longue que ça, puis François Léon, dans le fond, le cher frère, il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, même là, si on n'est pas bien reçu, où on va aller? On va cogner aux portes. Les gens vont être méchants. Ils vont nous rejeter. Ils vont nous refuser. Ils vont dire toutes sortes de choses sur nous. Mais il faut garder cette joie-là en nous. Je vais garder cette joie. Il faut garder cette joie, frère Léon. Et là, c'est là qu'on sent chez François cette volonté de dire, ben, dans le fond, on est aimé de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Et même si on reçoit plein de choses, tu sais, négatives, hein, de ce temps-ci, on en reçoit beaucoup, bien, juste le fait, pour moi en tout cas, là, pour le fait de savoir que je suis aimé de Dieu, que Dieu est là, que Dieu est amour, bien, c'est un peu ça que François nous dit. Il nous dit, bien, vu que tu es aimé, bien, c'est la joie parfaite. Tu sais? Dieu est là. Il nous accompagne. Alors, moi, je pense que c'est ça qui me... Moi, qui me stimule beaucoup à continuer aussi, puis à dire aux gens, ben oui, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile. Mais il y a eu d'autres périodes dans l'histoire qui n'ont pas été faciles non plus. Puis je pense que si on regarde la façon dont les gens, souvent, se sont pris en main, se sont dit, ben il y a des choses à faire. Il faut être solidaire. La solidarité, pour moi, c'est bien important. Et je pense que François il l'a bien montré aussi, qu'il faut être solidaire avec les plus pauvres, il faut être solidaire avec les marginalisés, avec les gens qui... Quand il était embrassé le lépreux, c'en est un exemple très concret. Mais aussi avec tous les gens qu'on a tendance à rejeter. Et là, je pense que c'est là qu'est notre joie à nous. C'est d'être avec les gens pauvres, avec les gens qui sont vraiment un peu à part. Et moi, je trouve que c'est une belle joie Ben, en tout cas, pour moi, ça, ça en est une joie que d'être avec ces gens-là, d'être avec eux, de les accompagner, d'essayer de les comprendre. Et puis le fait aussi que je sens que je suis aimé de Dieu, ben, pour moi, ça, c'est une grande stimulation.
À question d'aujourd'hui, nous recevons Richard Chartier, qui est directeur de Mission des Franciscains, et nous abordons cette fraternité chez François. C'est un thème aussi, une réalité. Je parle de thème, mais en fait, c'est une réalité. Mmh. C'est quelque chose que François d'Assise tenait beaucoup, la fraternité. Et il est devenu un peu, François, le frère universel.
Oui, tout à fait. On l'appelle le frère de la fraternité cosmologique. C'est vrai. Parce que pour François, on ne peut pas être, chrétien sans être fraternel. Les deux vont ensemble, sont liés. Hein? Pourquoi? Parce que, d'abord, la fraternité, le fait d'être ensemble, entre humains, mais aussi avec les autres créatures, c'est un don de Dieu. Pour lui, pourquoi il appelait, mettons, sœur abeille, sœur araignée, etc. Ce qui est quand même assez fort hein, pour l'époque. Moi, je trouve, en tout
Frère
cas.
Frère soleil.
Frère soleil. Ben, c'est parce que c'est une créature de Dieu. Alors, on peut pas rejeter une créature de Dieu. Comme mon frère qui est handicapé, mon frère qui a la lèpre. Aujourd'hui, ça pourrait être quelqu'un qui a le sida. Hein? Il y a des maladies comme ça qui ont été, qui étiquettent les gens puis qui font qu'ils deviennent marginales dans la société. Bien, c'est la même chose. Alors, on peut pas rejeter les autres parce qu'ils ont eux autres aussi. Ils sont aimés de Dieu. Hein? On revient encore à la joie parfaite, ils sont aimés de Dieu. Et l'amour des plus petits pour François, c'était la minorité parce que c'était important pour lui parce qu'il se disait qu'il faut toujours être dans l'humilité. Et d'ailleurs, les franciscains, ils portent le nom de Minores, Ordre des franciscains mineurs, OFM.
Et ça veut dire?
Et ça veut dire être mineur, être petit, se faire petit.
Être humble.
Être dans l'humilité. Alors ça, c'est important. Et c'est un des héritages, je trouve, de François qui est très fort parce qu'elle nous oblige à aller plus loin que ce qu'on peut être, nous. C'est-à-dire, c'est des fois, nous, on se dit, « Oh, mon Dieu, je vais être capable d'être avec des personnes? » Tu sais, je prends un exemple. À un moment donné, j'étais allé faire une animation auprès des personnes qui ont un handicap mental. Là, je me suis dit, « Mais je vais-tu être capable? » Tu sais, je ne sais pas, tu sais, je me sentais un petit peu mal à l'aise. Puis là, finalement, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j'animais avec ces gens-là, ben, coudonc, c'est des gens qui sont intelligents, qui ont vraiment quelque chose à nous apporter. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est parce que nos préjugés nous empêchent d'aller voir des gens dont on a peur, dont on ne sait pas trop comment ça va être, quoi, sa réaction. C'est ça, dans le fond, ce que François nous invite à faire. C'est de franchir le pas pour aller vers les gens dont on met toujours de côté. Alors ça, c'est important. C'est une des bases de la fraternité franciscaine, hein? C'est d'être avec les gens qu'on a tendance à mettre à part.
Richard Chartier, est-ce que le monde n'a pas soif de fraternité tout en se mettant dans des situations ou en prenant des options qui vont contre la fraternité? Ça, il n'y a pas une contradiction là-dedans entre cette soif, tout le monde veut être aimé, veut être accepté, et en même temps, on est dans un monde qui met beaucoup de barrières et dont les préjugés, malheureusement, deviennent de plus en plus présents, partiellement à cause des médias qu'on a une certaine accessibilité. Donc, c'est très facile, le jugement, et de juger sur l'apparence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que François nous apprend là-dedans?
Bien, tout à fait. Justement, parce qu'on se dit que toutes les différences devraient faire de nous une richesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Dieu nous a fait tous différents. Donc, il faut accepter cette différence-là, que ce soit une différence physique, intellectuelle, etc. Donc, c'est cette diversité qu'on retrouve dans la nature, d'ailleurs. Hein? Ce qui fait la belle richesse de la nature, c'est de la diversité. Alors, ce que François nous invite à faire, c'est de dire, bien, toute cette diversité-là, étant donné que c'est nos frères et sœurs, c'est des gens qui ont en même temps aussi des choses à nous apporter. C'est des enfants de Dieu. Donc, c'est important d'aller vers eux. Mais c'est important aussi de les respecter, de respecter la vie, de respecter toutes les personnes qui nous entourent, quoique des fois, peut-être qu'on ne partage pas leur opinion, ou etc., ou on ne les comprend pas, ou on a des préjugés. Mais il faut aller vers ces gens-là. La rencontre avec le lépreux, je trouve, c'est tellement une belle rencontre qui devrait transcender l'humanité, qui devrait nous donner cette leçon de dire, regardez, là, c'est pas si épouvantable que ça d'aller embrasser un lépreux, ne t'en meurs pas nécessairement. Hein? Mais c'est un peu ça que François nous dit.
Le Cantique des créatures a été écrit par François dans un moment difficile. Mm-hmm. Et ça, c'est peut-être quelque chose que l'on oublie. On a l'impression qu'il a écrit ça alors qu'il était peut-être dans un moment de grande consolation. Alors qu'il a écrit, et il nous a écrit donc ce Cantique des créatures, Frère Soleil, Sœur Eau, etc., dans un moment difficile. Et il ajoute, et j'aimerais que vous nous parliez de cela, une sororité dont on ne s'attend pas, mais il nous parle de notre sœur, la mort. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire quelque chose?
Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident. Hein? Quand on dit « sœur, la mort », là, même moi, je trouve ça confrontant parce que je me dis, qu'est-ce que François veut bien nous dire par là, tu sais, « sœur, la mort ». Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que, ben, d'après moi, là, je ne suis pas un grand théologien, mais selon ce que je comprends de cette... cette approche de François, c'est de nous dire, ben, comme on vient que je viens d'expliquer, la vie que Dieu nous donne, à un moment donné, elle va s'arrêter. Et c'est sûr, hein, on n'est pas éternel, mais comme chrétien, on a cette possibilité, si on peut dire, de croire à un autre monde après notre mort. Et je pense que c'est là que François nous dit, ben justement, n'ayez pas peur de sœur mort, parce que ça va être la résurrection pour nous tous. Et c'est là qu'est le message important de François, c'est de dire, n'ayez pas peur de la mort, parce qu'au contraire, ça vous amène vers la liberté, vers se rapprocher de Dieu. Et ça fait partie de la vie aussi. Hein? C'est un peu ça que je pense qu'il veut nous dire, François, là-dedans. Même si c'est un peu ébranlant, là, c'est pas évident.
Peut-être qu'il y a un appel aussi à apprivoiser, justement,
oui,
doucement, ce qui va tous nous arriver.
Tout à fait, ouais.
François aussi, dans sa fraternité, il y a eu aussi à vivre avec ses frères, et il y a eu quand même des moments qui n'étaient pas faciles. Alors, comment croire à la fraternité lorsque ce n'est pas facile en communauté?
Oui, c'est vrai, ça c'est un bon point. Que vous amenez là, parce que François, tout début, même dès les débuts, il a trouvé ça effectivement difficile, hein, parce qu'il y a eu des frères que, bon, eux autres, ils voulaient avoir des possessions, ils voulaient avoir des immeubles, ils voulaient avoir... Mais François, c'était pas son idée à lui. Lui, il voulait que les frères, que la fraternité demeure le plus humble possible, hein, le plus simple possible. Alors, toute sa vie, comme on peut le voir dans le livre de Pierre Brunet, justement, c'est toujours ces conversions. Comment tu fais effectivement pour vivre en fraternité si parfois tu es confronté à des personnes qui ont des idées différentes, qui ont des vues différentes? Alors là, ben là, il faut aller vers la prière, il faut aller vers le consensus, la réconciliation. C'est pas évident, c'est pas facile. François a traversé des moments difficiles, c'est vrai. Mais il a réussi quand même à rallier les frères par sa façon d'être, par sa façon de vivre, je pense. Et là, les frères, je pense, se sont dit, ben oui, c'est ça qu'il faut suivre comme voie. Ben, il y en a d'autres qui trouvaient que non. Bon, ils ont fait d'autres choses, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein? C'est pas facile.
Donc, cette fraternité chez François, comment il voyait Jésus et ses disciples? Est-ce que ça a été un modèle pour lui, les Jésus et ses disciples?
Oui, parce que pour lui, comme j'ai dit tantôt, avec l'évangile de Saint Matthieu, c'est là qu'il envoie en mission. Bien évidemment, pour lui, ça a été une grande inspiration. Hein, il envoie ses disciples en mission. Pour François, ça a toujours été important que les frères partent en mission, non seulement dans d'autres pays, mais à l'intérieur de leur pays aussi. François a beaucoup marché. Hein, il y a l'Italie, en France, etc., et les frères aussi, pour aller évangéliser. Parce que pour lui, c'était ça, c'était important de répandre la bonne nouvelle. Alors, c'est pour ça, je pense, qu'il s'est beaucoup inspiré de Jésus, ses disciples.
Et ce Jésus qu'il présentait comme dans la bonne nouvelle, dans la mission, c'est le Jésus pauvre?
Exactement. Hein, le Jésus qui va vers les marginaux, qui va vers les personnes qui sont en dehors de la cité, comme on dit.
Merci beaucoup, Richard Chartier. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Pour continuer à parler de François.
Oui, bien sûr, avec
de
plaisir.
De François d'Assise. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci d'être à l'écoute de Questions d'aujourd'hui. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à la semaine prochaine.